Bonsoir Henri Labourie. Alors Henri Labourie, on est à la bourre. En retard.
Ah, j'ai mis une heure et quart pour venir au Boussico et ici. Dieu, s'il faut passer ce après-midi pour venir vous voir.
Ah, oui, on va pas te faire une scène en public, mais enfin quand même. C'est terrible, hein. Labourie n'en revient toujours pas d'ailleurs, parce qu'il le disait l'autre jour en antenne. La télé, quand elle veut le voir, elle se déplace pour venir le filmer chez lui. Europe 1 et compagnie, pareil. Et en libertaire, il faut qu'il s'emmerde. Une heure et demie de trajet pour venir sur la butte Montmartre au micro.
C'est vrai, vous pourriez m'enregistrer la veille. Hein.
C'est une histoire de fou.
À domicile.
C'est une histoire de fou,
qu'est-ce que tu penses ? Oui, je pense.
Quoi de neuf sous le soleil depuis 15 jours, Henri Labourie ?
J'étais en Grèce.
Chez les camarades ?
Camarades.
Mais ils ne sont pas socialistes en Grèce ?
Spécialistes.
Socialistes.
Ah oui, j'étais même en grève. Le grève général.
Tu vois, on peut compter sur personne.
Ouais, je l'ai invité. L'ambassade de France, c'est le... J'ai trouvé un type charmant, d'ailleurs, qui est l'attaché culturel, qui est un grand pianiste de concert, qui a enregistré pas mal de disques, s'appelle Armingo. Peut-être que les auditeurs connaissent. Et qui est spécialisé dans Eric Satie, d'ailleurs. Mais qui est sorti aussi, chose drôle, des hautes études. Et l'école des hautes études, et qui est là-bas parce que maintenant il a une espèce d'arthrite qui le fait souffrir et qui joue moins de piano, de concert. Il enregistre encore des disques, mais il ne peut plus faire sa vie de concertiste.
Attends, il est là-bas pour prendre le soleil ou pour faire une fonction
Non, il fait un très très beau métier. Il était d'ailleurs à Jean, juste avant, il était à Stockholm. Il fait un très beau métier. Il demande à des gens de venir et. Il est fait parler, où il y a tout, des peintres, des musiciens, comme on dit, des savants, si j'ose dire.
Au moins des chercheurs.
Et il était étonné parce que j'ai fait ça le comble. Il ne s'y attendait pas, étant donné qu'il y avait la grève, on ne savait pas si les gens, il n'y avait plus de métro, plus de machin, les gens sont venus comme ils ont pu, même des environs d'Athènes. Et ils vont traduire mes bouquins en grec, etc.
T'es content, oui. Quoi.
Ben, ils m'ont emmené le dimanche, ils m'ont emmené à Rhodes, c'est jamais désagréable. Il faisait beau, il faisait chaud, c'est pas comme ici. Et c'est pas désagréable. Voilà.
Le thème de la conférence ?
Oh, c'est toujours les mêmes. Moi, je
toujours les mêmes, les inhibitions d'action ?
Ah non. Oui, si tu veux, les inhibitions d'action. Non, c'est les bases biologiques des comportements sociaux. Alors, comme... J'improvise à chaque fois, quoi. Alors, il y a des petites astuces qui m'amusent, que je découvre en parlant.
Et qu'est-ce que tu as dit aux Grecs en particulier ?
Aux Grecs ?
C'était bien en Grèce, hein.
Oui, mais c'est l'Institut de France, c'est-à-dire que les gens qui étaient là parlaient français. Parce que j'avais une traduction simultanée, mais en fait, comme c'était la grève, il n'y a pas eu de traducteur. Je n'avais même pas de micro. Il n'y avait pas de possibilité de faire marcher le micro. Voilà. Puis depuis, je travaille.
Alors comment que ça se passe dans ces cas-là ? Qui t'invite l'ambassade ?
L'ambassade de France, oui.
L'ambassade de France.
Oui.
Mais alors, comment se fait-il qu'il t'invite, toi, qui es en dehors de toute institution, ce qu'on te reproche beaucoup ?
Ah, parce que je suis très connu des ambassades. Non, je suis très connu des ambassades. J'étais dans tous les pays souvent invité par les ambassades, parce que je suis rentable à l'étranger. Ils le savent. Puis souvent ils répondent à la demande, soit de scientifiques, soit de gens qui... j'ai pas mal de bouquins traduits à l'étranger, donc quand on dit qui peut-on inviter, les gens disent on serait content de voir la Labourie. Bon, alors j'y vais. Et je refuse jamais une ambassade en général, d'abord parce qu'ils font un chic métier de communication interpeuple qui... Comme la semaine prochaine je vais à Liège pour Amnesty International, parce que ça aussi, je considère que je ne peux pas refuser. Mais je refuse tout, parce que tous les jours, j'ai des demandes de conférences, dès qu'on est Bruyère ou Tréfouille les Oies, et puis les clubs de réflexion, etc. Là, j'en ai profité suffisamment longtemps pour savoir à quoi ça mène.
En fait, tu as fait un choix qui a l'air d'être cynique. Tu choisis d'aller là où tu es sûr d'être largement entendu. Je résume, une réunion, si sympathique soit-elle, où il n'y a que 40 personnes, tu ne te déplaceras pas. En revanche, une réunion moins sympathique où il y a 400 personnes, tu te déplaceras.
C'est, en fait, oui, en partie. Parce que déjà, se déplacer pour 400 personnes, tout fera payer, bien sûr, parce que sans ça, moi, je ne parle pas pour me déplacer. Mais pour 400 personnes, quand on pense qu'on est 4 500 millions d'individus sur la planète, ça ne va pas très loin. Mais si ça peut faire connaître des bouquins, si ça peut, si on peut parler de choses qui se diffusent, il n'y a pas simplement le... Parler à 40 personnes, c'est un peu court, c'est vrai. Et puis, voilà, je passerai mon temps à dire que ça.
Hein. Et... On peut te rétorquer que 40 ou 400...
C'est pas une grosse différence. Non, mais ce qui me motive plus, c'est l'impact que ça peut avoir. Parce que sans ça, je passerai mon temps à aller porter la bonne parole, mais j'ai autre chose à faire, c'est pas mon métier. Je suis pas conférencier.
J'ai autre chose à foutre.
Mais j'ai autre chose à faire, oui, mais c'est vrai. Et puis actuellement, surtout, j'ai un boulot.
Où en est le travail ?
Où en est le travail ?
C'est assez amusant à poser comme question à la Bourrie, là, en toute familiarité, si je puis dire. Où en est le travail, la Bourrie ?
Ben, il avance.
Non,
on est sur des trucs horriblement complexes et on ne peut pas parler à un large public.
On peut en donner idée.
Oh, non, même pas. C'est de la biochimie horriblement complexe qui...
Des nouvelles molécules ?
Oh, les molécules, c'est un détail. Quand on a compris un mécanisme, on imagine une molécule pouvant agir sur lui. Mais l'intérêt pour nous, c'est pas, je l'ai dit ici d'ailleurs plusieurs fois, c'est que je suis dans une société marchande et que pour avoir mon autonomie économique, on trouve des molécules. Mais c'est pas le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est de comprendre quels sont les mécanismes du vivant, et en particulier les mécanismes centraux. Alors effectivement, quand on a cru comprendre, on dit tiens, étant donné telle forme moléculaire, au niveau de la membrane, ou ailleurs, telle molécule pourrait agir comme ça, et alors évidemment c'est des molécules souvent un peu farfelues, qui sont originales, qui... Mais tu sais, non, la dernière par exemple, c'est étonnant. L'accord de la haie, enfin le truc des brevets de la haie, nous a opposé un brevet. Pas un brevet, pas un brevet, une publication. Dans la phytochemistry, c'est-à-dire la chimie des américains, la chimie des plantes, dans lequel des types avaient broyé des radis roses. Il a raconté déjà.
Je ne sais pas si c'est à cette antenne, mais...
Oui, il a broyé des radis roses.
Oui.
Puis ils avaient regardé tout ce qu'il y avait dedans. Puis ils étaient tombés sur une molécule apparentée à la nôtre.
C'était pas sur cette antenne, tu peux y aller.
Ah oui. C'était une molécule apparentée à la nôtre, mais on nous a opposé, elle est déjà décrite.
Ah, alors, si j'ai bien compris, il y a un naturopathe qui s'est amusé à tripoter les radis roses.
Naturopathe, une grosse boîte de
Quand même,
ouais. Ça se demande des millions et des millions.
Alors, ils ont décelé une molécule analogue à celle qu'a
produit. Sans savoir à quoi elle pouvait servir, d'ailleurs, mais ils gardent ce qu'il y a dans le radis rose. Quoi.
Ouais.
Et puis, ils sont tombés sur une molécule qui était très proche de la nôtre. Et bon, elle était décrite, donc. Le brevet est un brevet d'application, mais il ne peut plus être un brevet de synthèse, de découverte de la molécule. Parce qu'elle a été décrite, sans savoir à quoi ça pouvait servir. D'ailleurs.
Et vous ignoriez totalement ce travail précédent.
Pour regarder les... Tu sais, ça se fait sur ordinateur actuellement, le type de la haie, il appuie sur un bouton, puis il voit tout ce qui tombe, c'est la seule qui est tombée d'ailleurs.
Radio Libertaire, Henri Laborie, au 42 62 90 51. Le clown, par chanson de Jenny Esposito, par Anne van der Love, et une chanson dédiée à Claude Sigala qui nous l'a demandé. J'en profite pour préciser à Claude et aux autres que j'ai remis ce soir seulement le courrier adressé à Henri Laborie parce qu'il n'était pas là la semaine dernière, et donc voilà. Je lui ai donné. Voilà, donc je crois qu'il y aura Bénin aussi tout à l'heure, parce qu'il en a demandé. Voilà. Bien, revenons-en à nos histoires de brevets. Non, t'as fait le tour, t'as dit
oui, la bruit. Ah oui, alors là, ça, toute la soirée pour y passer. Ça. Je parlais des brevets ici.
La bruit, oui. Toujours aussi nulle en matière de commercialisation de produits. Ça,
les gens s'y en occupent. Alors,
T'as pas de nouvelles du front des laboratoires?
Non, non.
Qu'est-ce que c'est que ces titres? Je me méfie, tu me diras, j'ai des préjugés, je m'en rends compte, mais je ne me méfie rien que parce qu'il y a un titre de une de François, je prends ça avec des pincettes, j'apprends que les Français ont quasiment vaincu le sida. C'est quoi cette histoire?
Oh, je ne connais absolument pas, je connais bien la question du sida, si tu veux, comme tout le monde d'ailleurs, parce que c'est un truc qui est amusant à suivre.
Si on veut.
Mais, oui, mais là, cette... Je crois ce que a dit Martin Regnault hier soir est fort juste. Il est rare que l'on annonce par une conférence de presse des résultats sur deux malades à 8 jours, si j'ai bien compris, 8 jours de recul, même si les résultats sont très prometteurs. Là, bon, enfin, pourquoi pas. Souvent, on est amené à le faire parce qu'on lâche. Malheureusement, dans une interview, par exemple, ça m'est arrivé encore récemment, un renseignement est qu'à ce moment-là, le journaliste s'en empare et en fait un scoop, comme on dit. Et là, il ne semble pas que ce soit le cas, c'est-à-dire que le ministère même s'en est occupé, a autorisé, etc. Donc, espérons. Moi, c'est assez joli, d'ailleurs, comme idée. Et plutôt curieux.
Quelle est cette idée?
C'est d'utiliser la cyclosporine qui est une chose qui bloque les défenses immunitaires finalement, ce qui permet le non-rejet ou qui facilite le non-rejet des greffes dans une maladie où justement les défenses immunitaires sont épuisées. Ça c'est simple curieux, mais pourquoi pas, il y a peut-être une idée que je ne vois pas clairement derrière qui est intéressante.
Un effet paradoxal?
Paradoxal, je ne sais pas, je ne vois pas très bien, il faudrait qu'on m'éclaire.
On ne peut pas assimiler cela à l'homéopathie.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Dans les faits, je veux dire, dans l'idée. Hein.
Non, du tout. Non, puis l'homéopathie a de nombreuses bases idéologiques, si j'ose dire, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Bases idéologiques, bien sûr que c'est soigné par le contraire, mais aussi soigné à des doses infinitésimales, etc. Alors là, c'est pas... En général, ce n'est pas deux infinitésimales qu'on fait ça. Mais bon, faut attendre.
Tu disais hors antenne, je reviens parce que notre courrier est sur la table. Tu disais que tu avais encore reçu hier, toi aussi, une lettre de prisonnier, que tu avais beaucoup de courriers de prisonniers.
Pas beaucoup, non, mais j'ai moins une ou deux lettres par mois, oui. je pense que... Ils sont pas très bien dans leur peau, ils essaient de se pas avec Sylvie Vartan, mais Coluche peut peut-être les intéresser, mais en dehors de ça, je pense pas que ni la radio ni la télévision puissent leur apporter un réconfort. Ils ont plutôt des idées neuves sur ce qu'ils peuvent être et ce que la société peut être, qui peuvent les intéresser, c'est pour ça qu'ils écrivent, qu'ils demandent mes bouquins. Là, il y en a encore un là qui est dans le carré que tu m'as donné. Je viens de
découvrir. Hein.
Viens de découvrir. Il me parle. Il me dit que c'est gentil. Enfin, ça remonte le moral quand je parle de la tolérance. Alors, ce que je peux lui dire, c'est que je vais mardi prochain à l'université de Strasbourg, département de philosophie, faire un gros laïus, un long laïus. Il m'était demandé il y a au moins 3 mois déjà sur la tolérance et que effectivement c'est pas un mince sujet seulement je pourrais peut-être parler pendant 2 heures mais
l'aborder à cette antenne d'ailleurs
oui mais très superficiellement alors je vous remercie de me dire mais c'est un prisonnier encore.
Il y a aussi Michel qui précise qu'il a bien reçu le fameux colis. L'anecdote que tu racontais, le paquet qui a été refusé en prison, qui t'est revenu, t'as appelé Badinter, etc. Enfin, c'était assez rigolo. C'est, j'allais dire, c'est assez rigolo. C'est affligeant aussi. Enfin,
oui.
Je ne sais pas s'il est nécessaire d'y revenir.
Non.
Il y a une question d'auditrice. Je me permets de préciser qu'à mon humble avis, la réponse est déjà incluse dans la question. Une auditrice qui se pose la question de savoir si ce qui nous a déterminés ne peut pas être à son tour, ces facteurs déterminants, ne peut pas être à leur tour un moteur politique. Elle met des guillemets à politique.
Mais toute idée politique est déterminée par nos apprentissages, et nous avons la couleur politique
que nous pouvons.
Qu'on peut, oui, ça. J'ai reçu ces jours-ci une demande d'un groupe qui s'occupe de 4 emprisonnés, à Toulouse, je crois, qui ont été mis en taule parce qu'ils avaient foutu des bombes partout passait Le Pen. Alors, ils m'envoient tout un série de documents.
Enfin, attends, je me permets de le préciser, puisque les compagnons de la Fédération anarchiste de Toulouse soutiennent ces inculpés-là. Ce sont des inculpés. Ils sont inculpés dans l'affaire du pylône qui a sauté avant la venue de Le Pen, pour protester contre la venue de Le Pen.
Oui, il n'y a pas eu de mort. Voilà. Ils en ont 4, ils ont fait 3 ou 4 attaques à la bombe.
Non, mais ils ont fait, c'est vite dit. Hein? Ils ont fait, c'est vite dit, ils sont inculpés pour ça, en tout cas.
Oui, bon, je ne suis pas ni juge, ni policier. Non, j'ai répondu que voilà, ils voulaient que me demander de mettre mon nom sur la liste. Alors j'ai dit je veux bien, mais j'ai écrit une lettre en leur disant je veux bien, mais à mon avis, dans un pays libre, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas la violence qui fera quelque chose. Hein, c'est pas parce que vous voudrez des bombes quand Le Pen ira parler que ça changera quoi que ce soit. Ce qui est dommage, c'est que 10% des Français votent pour Le Pen. Et alors il y a peut-être là autre chose à faire, c'est pas la bombe qu'on fera varier cette opinion. S'ils votent pour Le Pen, c'est que sans doute ils ont un apprentissage qui débouche, comme je réponds à la demande qui vient d'être posée, qui débouche sur une idée politique et est intéressée. Pour un chauffeur de taxi, la majorité se vote pour Le Pen et vous explique pourquoi. Moi, je ne discute pas, ce n'est pas la peine. De même que je n'aime pas parler à 40 personnes, comme je disais tout à l'heure, même si je prends de temps en temps des taxis, je n'arrive même pas à récolter 40 chauffeurs de taxi pour leur expliquer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut penser. Alors, pourquoi se fatiguer? Ça vaut pas le coup.
Laisser faire?
Non, pas laisser faire, je pense qu'il y a d'autres moyens d'agir. Le moyen d'agir, c'est la connaissance et c'est la répandre, aussi superficielle qu'il puisse être, c'est la répandre.
Et c'est pas en attaquant les maternelles à coups de bouquins de laborie que l'on changera la mentalité des taxis d'aujourd'hui? De certains taxis d'aujourd'hui, allez.
Non, mais pas tous, mais c'est vrai,
je témoigne, on en connaît dans notre entourage.
Oui, toute généralisation et erreur.
C'est vrai que l'image n'est pas innocente, parce qu'effectivement, on trouve...
Non, mais j'ai retrouvé, je m'ai demandé, le Conseil de l'Europe édite un journal. Quand tu m'as envoyé un exemplaire, ils m'ont demandé, avant le 15 octobre, de le relire 4 pages. C'est pas très long, ça m'a pas beaucoup fatigué. À la suite de leur article qui était paru dans Le Matin sur la passivité devant la violence, d'écrire 4 pages sur cette passivité devant la violence. C'est toujours intéressant d'écrire parce qu'on approche des idées qu'on n'a pas quand on parle. Une interview, bon, ça passe, blablablate, et puis... Mais, alors j'ai pris sur le mode banal, parce que c'est pas des sujets qu'on peut prendre de façon sérieuse, ou alors on emmerde tout le monde. Alors j'ai pris sur le mode banal, et j'ai commencé en disant que... Je t'apporterai cet article qui sera paru dans le Conseil de l'Europe, c'est traduit en 80 langues, je crois, et ça se balade dans le monde entier, bon. Ou du moins 21 pays, ils font partie du Conseil de l'Europe.
On passe de 40 à 4000.
Voilà, bon. Déjà, on a des lecteurs. Alors, je commence par raconter cette histoire qui est une blague. Il y a On l'entend sur la Seine, qui est un fleuve, je signale, qui traverse Paris d'ouest, d'est en ouest. Et un cri, help, help, help.
Et le mec se noie parce qu'il n'avait pas gueulé au secours, au secours, au secours.
Alors, il y a deux amis qui se promènent sur la berge et qui disent, dis donc, tu crois que pas qu'il aurait mieux fait d'apprendre à nager, ce gars-là, plutôt que d'apprendre l'anglais. Et il y a deux agents qui arrivent, qui disent, monsieur, je vous arrête, allez où, venez avec moi au poste, venez de porter secours à personne en danger. Cette petite histoire un peu ridicule, qui est une blague finalement, montre certains aspects du problème, d'ailleurs. J'ai un autre prisonnier encore, tu vois, encore une lettre de prisonnier, qui m'a dit que... Il y a qui me disant, vous savez, la raison principale, c'est son opinion, hein, et on voit pourquoi, d'ailleurs. La raison principale de la passivité des gens, c'est qu'ils ont peur que, même comme témoins, des tracasseries judiciaires ensuite, et des emmerdements qui peuvent en suivre. Bon, alors, je dis, bon... Mais il y a une autre chose qui m'est apparue qui était assez amusant. Je ne sais pas si tu connais, la sociobiologie wilsonienne. On en a parlé ici déjà, c'est-à-dire...
Dans tes bouquins aussi, on le trouve.
Non, très peu, j'en parle pas. Très peu. C'est dans la Colombasse de Chine, j'en dis quelques mots, enfin rien. Enfin, c'est une conception qui consiste à dire tous nos actes, tous nos comportements dépendent de nos gènes. Et nos gènes sont égoïstes. Ceux qui veulent, comme si un gène voulait quelque chose, c'est se reproduire. C'est être là. Bon, alors, moyennant quoi, comme le dit d'ailleurs fort intelligemment Le Pen, on préfère sa sœur, ou son frère, ou son fils, à son voisin de palier, et parce que dans le fils, dans le frère, il y a des gènes qui sont analogues aux vôtres, ou même quelquefois identiques, pas tous, mais quelques-uns. Et alors, si on se porte au secours d'un parent, finalement, on assure, même au risque de sa vie, en tirant d'affaires, on assure la pérennité de ses gènes. C'est-à-dire que même si on y reste, et que lui se sauve, il pourra se reproduire et donc les gènes seront protégés. C'est une opinion très, très répandue dans le milieu wilsonien. Et alors, on peut en conclure que on ne se portera pas au secours effectivement de sa femme ou de sa belle-mère parce qu'on n'a aucune communauté de gènes avec elle. Hein, et alors, c'est amusant de voir le ridicule d'une de telles opinions. Enfin, c'est
débile. Et quand on ne connaît pas sa sœur et qu'on la recroise 30 ans après sans savoir que c'est sa sœur, comment on fait?
Oui.
Ah, les gènes parlent.
Ouais,
ah,
les gènes parlent. D'accord. Les gènes le sentent. Ouais. Non, mais il y a en fait. Ce sont les automatismes culturels qui interviennent. Et malheureusement, on apprend à être viril et courageux, mais pour s'élever dans une hiérarchie, beaucoup plus que pour sauver son voisin. C'est pas... L'entraide, ça, Kropotkin, n'est... Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment cette civilisation de compétition, de foire d'empoigne, a pris comme base, n'a développé que la notion darwinienne. La lutte pour la vie, et le fait que le plus fort gagnant va pouvoir se reproduire, etc. Une
théorie qu'on présente comme le must, hein, comme la meilleure, comme la seule.
Oui, voilà. Oui,
ça, c'est scandaleux.
Eh oui, bah oui. Mais donc, ça, c'est même pas une opinion politique, c'est une opinion scientifique. Et elle-même, parce que c'est en partie vrai, mais je l'ai expliqué ici, ça dépend du niveau d'organisation. Bon, je ne peux pas revenir sur la question. Mais c'est en partie vrai, mais en fait, elle n'est soutenue que parce qu'elle est affectivement supportée par le désir, enfin, l'envie de la dominance et la recherche de la dominance. Et que cette société ne peut vivre qu'avec la recherche de la dominance.
Radio Libertaire, Henri Laborie, 42 62 90 51. Terre, les petits cailloux de Michel Bernard, dédiés aux parents de Michel. Henri Laborie, une autre question, c'est celle d'un auditeur qui vraisemblablement a écouté il y a plus d'un an les émissions que nous avions faites ensemble, ou alors qui a écouté les cassettes éditées par nos soins des émissions avec toi, que nous diffusons rue Amelot, et dans lesquels d'ailleurs tu donnes des recettes, c'est étonnant, des recettes anti-vieillissement. Et alors lui, il veut pas le tout, il veut une précision concernant la vitamine C dans cette posologie anti-vieillissement, les rapports de cette vitamine C incluse dans l'alimentation, ce que nous mangeons chaque jour, et le complément nécessaire à acheter en pharmacie.
Bon, la vitamine C est une des rares vitamines dont on ne connaît pas la toxicité. Je peux lui donner un exemple, c'est qu'un monsieur qui est un homme charmant et qui a eu deux fois le prix Nobel, qui s'appelle Linus Pauling, et alors un ami qui est celui qui l'a trouvé aux environs 1933 ou 35, qui est Seine-Georgie, prennent jusqu'à 10 grammes par jour depuis N années, depuis 20 ans, de vitamine C, 10 grammes par jour. Oui, Linus Pauling a 94 ans et il a l'air d'un jeune homme et Seine-Georgie vient de se remarier, il avait 84 ans, il doit en avoir 89 ou 90 actuellement. Je parle grâce uniquement à la vitamine C, faut pas croire. Enfin, alors la vitamine C n'est pas simplement qu'un antioxydant. Elle peut être aussi oxydative au niveau des membranes, il faut le savoir. Mais pour l'éviter, il suffit de manger en même temps de la vitamine E. Bien, alors les doses, ce qu'on a dans l'alimentation, sont nettement insuffisantes. Et comme elle n'a aucune toxicité, on peut augmenter ces doses. Mais il y a des doses intermédiaires, il ne faut pas en prendre trop peu. Et il faut au moins 2 grammes. 2 grammes par jour, c'est-à-dire si les comprimés comme sont à 500 mg, s'ils sont en général, il faut en prendre 4. C'est un minimum, mais on peut aller beaucoup plus haut. Avec la vitamine E. Voilà.
C'était quoi le reste de la recette déjà ?
Alors, bon, non, il y a 36 choses. Il y a plus la recette, tu sais. Il y a surtout comment on comprend la vie, sa vie et celle des autres. Comment on est par rapport aux autres. On demande des gens. Ce matin encore, j'ai un monsieur très respectable et qui est venu me trouver là-dessus, il perdait la mémoire.
Respectable, tu as dit ?
Respectable, j'ai dit. Et je dis, moi, je veux bien faire une ordonnance, mais je n'occupe jamais de cas particulier, mais c'est un type très haut placé qui
Ah bon ? Bah, bravo, le bruit.
Oui, non, mais bien sûr. Non pas parce qu'il était haut placé, si tu veux, c'est parce que il avait un lien très particulier avec tout l'ensemble hospitalier. Et c'est quelqu'un de la famille, si tu veux. Je fais du corporatisme.
Bon, à ton corps défendant.
À mon corps défendant, c'est ça. Et tu viendrais me demander, je pourrais te rendre service. Je te rendrai service aussi avec les connaissances médicales que je peux avoir, si elles peuvent te rendre service. Parce que finalement, on n'est pas lié, on n'a pas de lien avec les Chinois de Nankin ou de Pékin. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, etc. Ils ne viennent pas vous trouver. Bon, mais alors là, le cercle se resserre. Et quand on tombe sur des gens que l'on connaît, quelquefois, et quand je le peux, sans ça, je ne ferais plus que ça. J'ai un laboratoire, je n'ai pas de service hospitalier et une clientèle. Bon. Beaucoup de gens, d'ailleurs, je les envoie au psychiatre qui a suivi, qui a venu travailler chez nous pendant de nombreuses années, qui est Jean-Pierre Muillard, qui est à Lyon. Alors, s'ils peuvent aller à Lyon, je leur donne son adresse, c'est son numéro de téléphone, parce qu'il est assez documenté du fait qu'il a vécu avec nous pendant de nombreuses années. Donc, ce matin, je reprends le début de mon discours. J'ai encore fait une ordonnance où il y avait de la vitamine E, de la vitamine C, où il y avait du sélénium, il faut le faire venir d'Amérique, il y avait ma drogue, l'aspartate, qu'il faut venir faire venir d'Amérique en passant par la Suisse, puis par l'Italie, où la boîte américaine l'a commercialisé, mais en France, on n'en trouve pas. Et j'ai parlé donc du sélénium.
C'est un sel, ça ?
Non, c'est un métal.
C'est
un métal qui a... qui est un cofacteur de la glutathione peroxydase, ça ne t'intéresse pas beaucoup. Ça, bon,
qu'est-ce qu'il dit ?
Oui. Bon, tu vois, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Donc c'est un ensemble de choses. Mais bien sûr que tu ne peux pas éviter toutes les inhibitions d'action et stress, comme on dit, la vie journalière. Donc il est bon de favoriser la disparition des perturbations biologiques et des antioxydants qui apparaissent à la suite de cette rencontre avec le milieu social dans lequel tu te trouves. Le milieu inanimé d'ailleurs, les pollutions et tout et tout. Mais en fait, la chose importante, je pense, c'est la façon dont on envisage la vie et son rapport avec les autres.
Et si tu pouvais donner un pourcentage d'importance entre le comportement, enfin, c'est ce que tu viens de dire, l'importance qu'on attache à sa vie, etc., ou le détachement que tu peux avoir par rapport à toi-même et aux autres. Bon. Et puis cette médicamentation.
C'est comme si tu me demandais de donner une proportion entre un tas de carottes et une gare de chemin de fer. C'est deux choses qui sont à des niveaux d'organisation, une fois de plus, différents. Tu ne peux pas comparer, c'est autre chose. C'est deux plans d'organisation, c'est deux façons différentes de... L'un est au dernier niveau, c'est les champs moléculaires, si tu veux. Quand tous les autres niveaux ont été foutus par terre, tu rattrapes comme tu peux, mais la meilleure façon... Il n'y a pas de proportion, c'est comme les gens qui vous prétendent, tu as eu Jacquard ici, tu as dû te le dire, et qui font un rapport en disant l'intelligence est 80% innée et 20% acquise, ou 85% innée et 15% acquise. C'est complètement idiot, ça ne veut rien dire. C'est de comparer des choses qui ne sont pas les mêmes. Bon, alors, c'est la même chose, ça, c'est... Et chaque système, chaque niveau d'organisation étant englobé par l'autre, le dernier c'est évidemment celui du rapport social.
Laborie, tu nous as déjà donné ton âge, je peux le dire, hein, tu as 71 ans.
Oui. Dans 8 jours. Dans
21 jours. Tu nous as dit que certains ont cru que tu te teignais les cheveux.
Oui.
Parce que tu as quelques cheveux blancs sur les tempes. Sur les tempes, non, pas beaucoup, non, oui, pas beaucoup, et c'est tout. Et bon, alors ça.
J'ai surtout une vie très dynamique.
Oui, et... mais enfin, depuis combien d'années, 20 ans, 30 ans, tu te drogues?
Bon, ça fait bien 25 ans, oui.
Que tu manges de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, du. 25 ans.
Bon. 25 ans.
Alors, c'est pour ça que je te disais qu'il y a quand même aussi. Il y a peut-être 50% de comportement et de ce qu'on a dans la tête.
Non. Je pense que c'est deux choses différentes.
Sans la médicamentation, tu aurais la même gueule.
Non, je t'ai dit que non. Il est probable, il ne faut pas lier ce point sur mon expérience personnelle que je peux juger, s'il ne faut pas être des milliers de personnes. Quand même, ça commence à se dire d'ailleurs, et le rôle des radicaux libres dans le vieillissement est une chose qui est admise maintenant. Et puis même dans toute la pathologie, mais quand je l'ai dit en 60-64, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à m'en occuper, personne n'y croyait, on me disait, oh, c'est du labori, c'est farfelu, ça. Bon. Mais c'est deux choses différentes. Si j'ai une attitude envers mon environnement social, si je sais pourquoi je suis en inhibition d'action, si j'attache l'importance à des choses qui n'en ont pas, qui n'ont pas de valeur, si j'ai des motivations que je ne peux pas réaliser par mon action, je vieillirai. Je retarderai peut-être un petit peu le vieillissement en compensant par des drogues, mais c'est pour ça que ce sont deux plans différents. Et si je n'ai pas utilisé ces médications, je ne sais pas du tout ce qui serait arrivé, mais je fume et je vais peut-être mourir d'un cancer du poumon, mais actuellement pas encore. Je fais un certain nombre de choses qui ne sont pas de mon assiette. Et assez quotidiennement, et finalement, je crois qu'il y a aussi la façon dont on... Je te dirais très sincèrement que je n'ai pas l'impression d'avoir vieilli depuis l'âge de 40-45 ans. Il y a ça aussi. Il y a le fait de ce que les autres vous disent, qu'ils vous voient vieux, et vous font rentrer dans un comportement de vieux. Mais si on n'y croit pas, il n'y a pas de raison. Bien sûr, je suis limité dans... Maintenant, quand je navigue, je suis limité dans certains efforts physiques, je suis limité dans ma nage, je suis limité dans un certain nombre de choses. Mais finalement, je fais un peu de gymnastique tous les matins,
Tu mènes toujours des bateaux ?
Oui, non, mais ça, être skipper, comme on dit, c'est une chose, si les autres travaillent pour vous. Hein, mais il y a des efforts physiques que j'essaie de ne pas faire, parce que ça me fatigue et que j'ai autre chose à faire. Alors je prends des équipiers costauds, bien bâtis, et... Mais je pense que Tabarly, qui est pourtant un type très baraqué, il fait la même chose, il a besoin d'équipiers qui l'aident. Et en vieillissant, on n'a pas intérêt à se livrer à des efforts, on a intérêt à entretenir son équilibre physique. Mais on a de moins en moins intérêt à fournir des efforts physiques qu'on n'est plus capable de faire.
Vulgairement parlant, c'est pas de la simple auto-persuasion quand même. Quand tu dis les autres vont vieillir, mais si vous, vous décidez que vous vieillissez pas.
Ça fait partie des rapports sociaux. C'est un des éléments, un des facteurs des rapports sociaux. Et puis, il se trouve que je ne suis pas à la retraite. Enfin, à la retraite, je suis à la retraite si tu veux, mais je vis même avec ma retraite. Mais je continue à travailler. Et je travaille autant que j'ai travaillé à 40 ans. Et je suis motivé aussi, toujours intéressé par la vie, par ce que je suis, par ce que sont les autres. Et au niveau des membranes, au niveau des molécules, au niveau des cellules, des neurones, tout ça c'est passionnant. Et t'as pas le temps de vieillir quand tu t'occupes de ça. C'est les gens qui s'emmerdent, qui vieillissent.
Rassure-moi, tu vas vieillir un jour quand même.
Je pense que je vais mourir, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas si je mourrai vieux.
Mourir mais jeune,
je pense.
Radio Libertaire, la voix sans maître, c'était pour Claude, ça. On en continue avec Henri Laborie, une question d'auditeur, une autre. Je rappelle le téléphone de la station et du studio. C'est 42 62 90 51. Alors que pense Henri Laborie des jeunes qui vivent au jour le jour, en opposition à ceux qui croient en l'homme à travers un dieu ou quelque chose d'autre?
Je pense que la jeunesse d'abord, actuelle, on parle toujours de la jeunesse des pays dits industrialisés ou évolués, et plus particulièrement de la jeunesse occidentale, mais c'est une toute petite partie de la jeunesse planétaire. Il faudrait savoir ce que pensent les gens d'Angola, du Congo, de la Cochinchine, du Zaïre. C'est aussi une jeunesse qui a son importance et même beaucoup plus nombreuse que celle dont on parle. Bon, cette jeunesse-là, j'écris déjà d'ailleurs que si vous rencontrez quelqu'un qui sait comment faut élever les enfants, surtout lui envoyez pas les vôtres. Ça m'a été donné, cette phrase a été donnée au bac, en philo, je crois, à analyser. Alors, ce que je pense que, d'abord, il n'y a ni d'un côté le bien, ni d'un côté le mal. Les jeunes à qui on a expliqué que dans la vie, s'ils voulaient être heureux, il fallait qu'ils aient une résidence secondaire, un frigidaire et un appartement correctement meublé, et pour ça il fallait qu'ils donnent à la société un travail dans la confection des marchandises, on peut être tranquille que s'ils sont persuadés, s'ils font des efforts pour arriver à vendre des marchandises, contrôler les marchandises, inventer des machines, etc., et s'élever dans une société marchande, et que maintenant ils couvriront aussi très souvent, dans le milieu qui les a conditionnés à ça, ils le couvriront d'un discours logique, où il y aura de l'amour, de la transcendance, etc., parce que, effectivement, c'est pas très reluisant de travailler pour faire des marchandises et s'élever dans une hiérarchie. C'est pas beau, alors... Il y a toujours un discours logique pour expliquer pourquoi on agit comme ça. Maintenant, les autres, Ils ne sont pas motivés, on ne peut pas leur en vouloir non plus. À ceux-là, les premiers, on ne peut pas leur en vouloir. Ça, c'est le milieu familial, parce que finalement, les jeunes actuels, c'est l'affreux jojo pour les adultes. Qu'est-ce qui les a fait? C'est les adultes. C'est les adultes qui ont fait la jeunesse actuelle. Et si elle est, si les adultes la trouvent tellement désespérante, ben, ils n'ont ça qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont fait une société dans laquelle ces jeunes ne comprennent plus pourquoi ils sont là et à quoi ils servent.
Quoi qu'encore, il faut constater que c'est toujours les enfants des autres qui ne sont pas bien. C'est toujours l'enfant du voisin qui
non, est sûr. Non, les miens, on ne m'enthousiasme pas. Enfin, ça. Mais, je ne peux pas le dire, mais ils ne m'enthousiasment pas non plus qu'ils me désespèrent. Moi, personnellement, ils sont adultes. Maintenant que j'ai été une cause de ce qu'ils sont,
c'est évident,
c'est sûr, mais qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que j'aurais pu y faire de toute façon? Donc, j'ai pas d'opinion sur. Je n'ai pas de jugement. Je pense qu'il est malheureux pour une certaine jeunesse, effectivement, tout ce qu'on peut dire, sans juger cette jeunesse, que, étant située dans une société d'un certain type qui est la nôtre, pour éviter les ennuis, il n'essaie pas de, sans y croire, de se conformer à certaines règles indispensables de cette société. Toi-même, tu es anarchiste, mais tu travailles et tu gagnes ta vie. Bon, bah. Comme ils ne sont pas forts en mathématiques en général, ils ne sont pas forts en mathématiques. S'ils étaient forts en mathématiques, ils sortiraient d'une grande école ou d'une école moyenne, enfin, ils seraient utiles à la société, en mathématiques et en physique. Ils ne sont pas forts en mathématiques, et ils préfèrent jouer de la guitare, parce que ça en y arrive quand même, en gratouillant dessus. Et ils se droguent, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir non plus, s'ils ne veulent pas vivre là-dedans. Seule chose qu'ils n'ont pas compris, et c'est dommage pour eux, qu'on peut très bien, il y a une éloge de la fuite qui consiste à donner à cette société pour qu'elle vous foute la paix un minimum, et puis à ce moment-là faire ce qui vous plaît, dans toute orientation. Du jardinage à la poésie, à la peinture, à la science, tout ce qu'on veut. Maintenant, effectivement, beaucoup d'entre eux sont nés dans des milieux et dans un espace social qui rend difficile cette connaissance. Et là non plus, on ne peut pas les juger, que ce soit des fils d'émigrés ou des fils des gens bien de chez nous, de bons Français bien de chez nous. On ne peut pas leur en vouloir de refuser, de ne pas faire aller à Katmandou quand ils ont suffisamment d'argent, ou d'aller dans les Cévennes faire de la poterie. Je comprends qu'ils aient marre de cette société, mais c'est le moyen qu'ils utilisent qui me semble précaire et inefficace. Et c'est tout. Je ne peux pas leur en vouloir. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à les aimer plus que les autres. Mais que faire? Parce qu'ils se tuent. Ils se tuent progressivement. Et en plus, leur ignorance s'accroît. C'est ça qui est le plus terrible. C'est que dans ce refus d'une société, ils en refusent. Société, c'est quand même l'aboutissant, maladroit, souvent même révoltant, de toute l'histoire de l'homme, depuis la pierre taillée. Rejeter cette expérience, ça me semble aussi très, très suspect. Avant de refuser quelque chose, faut-il encore connaître comment historiquement et comment scientifiquement on peut comprendre comment nous sommes arrivés où nous sommes. Et le plus attristant, c'est l'ignorance étonnante de ces jeunes qui, dans leur refus, refusent même ce que la société peut leur apporter, c'est-à-dire la connaissance. Et une connaissance qui vient du plus lointain de l'espèce humaine. Pensez quand même qu'on a mis 2 500 000 ans, 10 000 ans à casser des cailloux à la porte des. Enfin, où on pouvait. et que cette longue expérience a commencé à exploser il y a 10 000 ans, au début du Mésolithique, au début du Néolithique. Ce passé de cette connaissance, je lis presque sans arrêt des bouquins de préhistoire. C'est formidable d'essayer de se mettre dans la peau des gens qui ont vécu il y a 30 000 ans, Aurignacien à 34 000 ans, Moustérien à 45 000 ans, 50 000 ans. C'est très difficile d'ailleurs, mais c'est très, très enthousiasmant de voir comment l'homme a pu se façonner au cours de l'histoire.
Être façonné?
Oui, il a été façonné, mis à façon, en façon, en forme.
Je dis,
on se façonne, c'est pas l'homme qui se façonne, c'est le rapport entre le milieu et l'homme qui a façonné cet être que nous avons devant nous, quand je te regarde. Mais, alors, pour répondre à cette question de cette auditrice, je ne veux surtout pas juger, et je dis, je répète, j'aurais plutôt tendance à juger les jeunes déphasés, les jeunes mal dans leur peau, avec plus de tendresse que les autres, qui sont bien inscrits dans une société qui non seulement ils ne réprouvent pas, mais...